Aujourd'hui en lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre et à vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement installé chez vous, par la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Eh bien, puisque vous lisez en alternance chaque mois, aujourd'hui c'est Catherine qui a choisi de nous présenter une nouvelle, comme d'habitude.
Eh non. Aujourd'hui, il s'agit d'un roman. Alors, il s'agit d'un roman de Laurent Mauvignier, Continué, qu'il a publié aux éditions de Minuit en 2016. Voilà. Alors, Laurent Mauvignier, peut-être vous le connaissez, hein, c'est un écrivain français qui est né à Tours.
Oui,
Presque un local. Ouais, il est né en 67 à Tours, voilà. Donc, depuis une vingtaine d'années, il a publié, toujours aux éditions de Minuit, des textes littéraires, donc profondément ancrés dans la réalité, une douzaine de romans, des essais, du théâtre. Et depuis son premier livre, Loin d'eux, il s'est attaché à donner une existence romanesque à une partie de la société qui apparaît peu en littérature, une petite classe moyenne rurale, une France pavillonnaire dont il est lui-même issu. Il s'est imaginé des personnalités complexes et semble soucieux de débusquer l'humanité qui se cache derrière les faits divers.
Les faits divers, c'est la vie.
C'est exactement. On le lit dans la NR, entre autres.
On lit dans la Nouvelle République,
voilà.
Entre autres.
Est-ce lui qui a écrit Histoire de la nuit, qui se passe justement dans une ferme très dans le monde rural?
Alors, Histoire de la nuit, je
remarqueront que ça n'est pas préparé.
Parce qu'il a écrit Des hommes, il a écrit Loin d'eux, il a écrit Apprendre à finir, il a écrit... Alors, Histoire de la nuit, peut-être. Il a écrit une douzaine de titres, je ne les ai pas tous en tête par cœur, mais ça se peut bien, oui. Donc voilà, alors parfois il ne donne pas toujours dans le fait divers puisqu'il a écrit quand même certains romans qui ont abordé des thèmes forts comme la guerre d'Algérie, le drame du stade du Heysel ou encore de la centrale de Fukushima. C'est lui qui a écrit des ouvrages sur ces grands moments.
Sur la guerre d'Algérie, tu te souviens du titre ?
Alors, sur la guerre d'Algérie, je...
À la colle.
Ah là là là, il faut être sûr, il faut être sûr de retrouver tout de suite sur la guerre d'Algérie. Je te rechercherai.
On recherchera un peu plus tard.
Alors, Hetzel, c'est Dans la foule. Et puis, est-ce que c'est Des hommes sur la guerre d'Algérie ? Oui, c'est Des hommes qu'il a publié en 2009, je crois. Voilà. Ouf, sinon j'aurais été recalée.
Ben oui.
J'ai eu peur.
J'ai quelques cols comme ça.
Oh là 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 là.
Aux spécialistes.
Voilà.
Bon, et donc aujourd'hui.
Alors, donc aujourd'hui, je vous ai dit, c'est Continuer. Voilà. Alors, c'est un roman qui est aujourd'hui, dont je vous parle aujourd'hui, et un récit silencieux, si on peut dire, d'une aventure rédemptrice. Alors là,
mais encore.
Ah
mais
voilà,
encore.
je m'en doutais. Je vais trouver la solution à la question. Eh bien, je vais vous lire le petit résumé qu'on trouve toujours en quatrième de couverture dans les livres. Enfin, pas toujours. Puis des fois, ils sont accrocheurs, mais ils ne correspondent pas au livre.
C'est le but du jeu, c'est de faire vendre.
Mais là, ça correspond. Sybille, c'est notre héroïne, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage et pour retrouver peut-être le fil de sa propre histoire.
Et donc là, on semble un peu loin du fait divers.
Eh ben non, justement, parce que quand Laurent Mauvignier a écrit ça, c'est parce qu'il avait lu un reportage qu'il y avait dans Le Monde sur un homme qui avait justement, pour aider son fils à s'en sortir, avait embarqué son gamin. Donc là, c'était un père avec son fils, alors que dans le roman, c'est une mère avec son fils. Et il avait embarqué son gamin pendant plusieurs mois, 3 mois d'ailleurs, en Asie centrale, au Kirghizistan. Donc, c'est un vrai fait divers. Et d'ailleurs, le fameux père qui a vécu ça a écrit un essai, enfin un témoignage sur son expérience. Mais Voilà, c'est deux mondes différents. C'est simplement pour montrer que la fiction peut reprendre un fait divers, mais que parfois, le fait divers repris par un écrivain, ça peut être de la pure littérature. Voilà, et c'est un bon roman. Voilà. Non, mais parce qu'on peut, en lisant, on se dit, oh là là, c'est exagéré, c'est pas possible, cet amour maternel poussé à l'extrême, etc. On ne peut pas y croire.
Catherine, je n'ai pas voulu te couper, et je ne sais pas si c'est le bon moment, mais le Kirghizistan, c'est où comme pays ?
Alors, le Kirghizistan...
Tu vois le Kazakhstan ? Eh bien, c'est pas loin.
Eh bien, t'as pas tort, parce que c'est sûr. Coincé. Donc, il y a une... À l'est, c'est entre la Russie et la Chine. Oui.
C'est un vrai pays.
C'est un pays d'Asie centrale. Donc, c'est des steppes, des montagnes, des très hautes montagnes. Il y a des glaciers, il y a des montagnes à près de 4000 mètres.
Ouais, hein. Tu dois avoir dans l'ordre la Géorgie, l'Ouzbékistan... Le Kirghizistan et le Kazakhstan, qui touchent.
Ça, c'est tous ces coins-là, mais c'est coincé vraiment en Russie-Chine. Enfin, c'est un petit coin perdu, mais pas un grand pays. Mais...
Et c'est au pied de l'Himalaya, tout ça.
Ah ouais. Donc, oui, parce que tu as quand même montagne. Des très hautes montagnes.
Hein. Aucun accès à la mer.
Non.
Ah, d'accord.
Non. Oui, oui. C'est un pays enclavé.
Ah non, c'est loin.
Ouais. Dans l'histoire. Hein.
Allez, on y va ?
Eh bien, on va y aller. La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sibylle sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut 3 secondes pour les compter, ils sont 8, et 1 seconde de plus pour constater que les 2 chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour, il ne comprend pas tout de suite, il regarde sa mère, et à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kirghizes quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. Sibylle parle russe, c'est l'avantage d'avoir eu des grands-parents qui ont fui l'Union soviétique. Mais c'est comme si elle n'entendait rien de ce que lui dit l'un des types. Elle fixe un instant ses yeux bleus, son visage fermé, les autres avec leur tête noircie par le soleil et le travail. Mais qu'est-ce que c'est leur travail ? Sibylle sait qu'au Kirghizistan, voleur de chevaux est un travail qui a une tradition et une noblesse. Alors pour l'instant, elle ne répond pas ou seulement en posant d'autres questions. Et les autres ignorent si c'est seulement sa voix et son accent qui déforment les mots qu'elle dit ou si c'est bien la peur, l'émotion, le danger qu'elle ressent. Pendant ce temps, Samuel s'est levé, il a empaqueté ses affaires, il démonte sa toile de tente et lance des coups d'œil à sa mère. On regarde les chevaux qui broutent de la luzerne un peu plus loin en se disant qu'il faudra se rapprocher. Mais pour l'instant, c'est le cercle des 8 hommes qui se referme, se rétrécissant, se précisant comme les questions qui fusent. D'où venez-vous comme ça ? Pourquoi vous venez dans ce pays où il n'y a rien à faire ? Pourquoi vous avez envie de marcher si haut dans les montagnes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous venez et pourquoi une femme se promène seule avec un garçon si jeune ? Vous n'avez pas de mari ? Il n'y a pas d'homme avec vous, non ? Et vos chevaux, ils ont l'air robustes ? Vous les avez achetés où ? À qui ? Loin ? Au marché ? À Osh ? À Bishkek ? Sibylle et Samuel ne regardent pas le type pendant qu'il lance ses questions. Elle continue de parler en rangeant ses affaires, des gestes précis qu'elle ne pensait pas avoir déjà acquis. Elle pourrait faire le pactage les yeux fermés. Elle continue de poser des questions pour ne pas répondre à celles dont le début s'est fait de plus en plus pressant. On a défait et rangé les tentes, scellé les montures. Samuel détache les chevaux. Les hommes ne disent plus rien, ils ricanent, observent. On décide de descendre et de rejoindre les paysans qui travaillent plus bas, d'aller vers les fermes. On se le dit en français. Un instant, le français devient comme un mur épais et puissant pour se protéger des autres. Ceux-là qui maintenant parlent entre eux et se mettent à rire d'un rire mauvais et rageur. Quand Sibylle ouvre la marche, elle fend le cercle qui s'est fermé autour d'eux. Samuel la suit. Le regard des hommes qui les laissent passer est une barrière plus difficile à franchir que leur corps. Mais le cercle s'est ouvert et forme une ligne flottante. 8 hommes qui les regardent partir et les suivent longtemps. D'abord du regard, puis en marchant derrière eux de plus en plus près. Ils ne lâchent pas si facilement, ils insistent. Toujours les questions sur les chevaux. Mais Sibylle ne répond plus. Elle murmure à Samuel qu'il faut continuer à descendre. Sa voix est si basse maintenant qu'elle chuchote comme si elle craignait que l'un des hommes parle français, ce qui est absurde, bien sûr, elle le sait. Peu importe, c'est plus fort qu'elle. On lui avait bien dit que c'était une connerie de partir avec son fils comme ça à l'aventure, seulement tous les deux. Mais elle avait tenu bon. Elle avait répondu « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous voulez que je ne fasse rien et que je laisse Samuel plonger et lâcher prise complètement ? Non, ça c'est hors de question. Je le laisserai pas tomber. » Pendant un temps qui leur paraît aussi long et pénible que sont lourds et insistants les regards des huit types, Sibylle et Samuel descendent. Ils veulent rejoindre la vallée en se disant qu'en bas ils trouveront des gens, car au-dessous on voit la route qui serpente entre les collines et les villages, les fermes isolées, les gens qui vont travailler. Déjà la chaleur monte et dans quelques heures l'été écrasera les pentes verdoyantes sous un ciel d'un bleu limpide et implacable. Dans leur dos, Sibylle et Samuel entendent que deux des gars ont l'air de réclamer quelque chose. Leur chef s'arrête pour les engueuler, ça discute, ça tergiverse. Sibylle et Samuel n'attendent pas d'en comprendre davantage. Ils marchent vite, silencieux, la bride à la main. Puis, soudain, les deux types se mettent à courir et passent devant eux en les frôlant et en gueulant. Là, tout près, sans regarder vers eux. Et dans l'air du matin, on a juste le temps de sentir un relent aigre de sueur et de poussière, peut-être de vodka. Les chevaux hennissent, ils n'aiment pas ce roulis de caillasse ni les voix rauques qui éructent. Les deux types descendent en cavalant et laissent les six autres derrière eux qui semblent les insulter. On n'a pas le temps de se dire qu'on peut mourir ici, dépouillé et balancé dans un fossé au pied d'une montagne, qu'ils peuvent nous traîner plus loin et nous abandonner agonisant parmi les pierres et les ronces. Oui, pas le temps de se dire qu'on peut se faire tuer par des sales gueules qui puent l'alcool et la crasse. On ne se dit rien. Mais lorsqu'ils arrivent dans la vallée, près d'une route déserte à flanc de colline, les hommes qui étaient derrière passent à l'attaque. C'est rapide. Le chef jaillit le premier. Il bondit sur Sibylle pendant que deux autres essaient de sauter sur Samuel. Sibylle s'est retournée et tient fermement sa cravache. Elle cingle le visage du chef de bande. Samuel frappe les deux types à coups de poing. Les chevaux reculent, ils vont s'enfuir. Les autres essaient de les saisir, mais ils se cabrent et hennissent en tambourinant sur le sol. Les fers claquent sur la pierraille. La poussière monte, jaune, fine, des particules qui dansent autour des corps le temps que dure l'attaque. Un temps très court. Une voiture apparaît à l'autre bout de la route. Sibylle et Samuel ne la voient ni l'un ni l'autre. Mais le chef de bande se met à gueuler pour prévenir les autres. Samuel et Sibylle transpirent et crient. Quand ils voient la voiture, ils ne pensent pas qu'on vient les aider. C'est une pauvre vieille Trabant bleue. Elle soulève une masse compacte de poussière qui ne retombe pas sur son passage, mais semble se figer dans l'air. L'image qui leur vient, c'est plutôt celle des deux types qui se sont enfuis. Ils se disent qu'ils reviennent, mais sans doute pas, bien sûr que non. Les autres types ne seraient pas pris de panique si c'était eux. La voiture approche, un avant-bras sort de la portière passager et au bout un objet. Puis un soubresaut, la main et l'avant-bras qui rebondissent sous le coup de la détonation. Une deuxième détonation dont l'écho résonne longtemps dans l'air. Un son métallique qui se fracasse très loin contre les parois des montagnes et se répercute encore avant d'aller mourir très loin, en haut, contre les glaciers. Soudain, les types disparaissent dans la montagne. Sibylle et Samuel ont à peine le temps de les voir s'évanouir dans les bosquets et derrière les arbres, des frissons dans les feuillages, des bruits comme des animaux, les hennissements des chevaux qui ont peur et la poussière qui retombe, épaisse et pourtant légère comme du pollen au printemps, sur le bord des routes de campagne. Djamila, la première, et Bektash, son mari, expliquent à Sibylle qu'il vaut mieux les laisser filer, que les flics, si on les appelle, c'est toujours vous qu'ils coffreront, parce que Dieu sait s'ils ne sont pas eux-mêmes des flics, vos bandits, ou s'ils ne sont pas leurs frères, leurs amis, leurs cousins. Samuel et Sibylle ont dû rassurer les chevaux pendant un long moment. Depuis 3 semaines que le voyage a commencé, on a appris à se connaître, à savoir ce que les uns et les autres sentent. Pour l'instant, leur nervosité est la même que celle de leur maître. On n'a rien besoin de se dire. Pas même d'échanger un coup d'œil pour se comprendre. Les souffles mettent un temps fou à retrouver leur rythme, les cœurs aussi. Sibylle et Samuel regardent le pistolet avec lequel Djamila a tiré en l'air. Celle-ci comprend de quoi Sibylle a peur. Et si, en perdant, 8 voleurs ont tombé sur un couple façon Bonnie and Clyde à la Kirghize. Djamila jette le pistolet sur le siège avant du conducteur. Elle ne veut pas faire peur. Elle ne tient pas souvent le pistolet dans sa main. Elle n'a presque jamais tiré, en tout cas jamais autrement que pour ramener un troupeau de chevaux ou de moutons. Peut-être une fois pour faire fuir un ours qui s'approchait trop près des maisons. Elle expliquera plusieurs fois dans la journée et ce soir encore après le repas qu'elle avait décidé d'avoir un pistolet le jour où son père avait été tué par un loup, juste devant la porte de leur yourte. Il y a longtemps, elle était adolescente. Bektash part seule en voiture, sa femme propose d'accompagner les voyageurs jusqu'à leur maison. Elle montera sur l'un des chevaux et eux deux, mère et fils, sur l'autre. Ce soir, on boira du lait de jument fermenté, le koumis, de la bière russe, la baltika. On mangera des pâtes et de la viande de mouton. On parlera de la vie et des gens d'ici. Et puis bien sûr, en buvant une vodka, on écoutera ce que les étrangers ont à dire. Car Sibyl et Samuel savent que, contrairement à ce que leur rencontre matinale pourrait laisser présager, les Kirghiz sont un peuple ouvert et généreux. Sibyl et Samuel acceptent l'invitation. On ne peut pas refuser à celui qui offre son hospitalité, surtout quand il vient de vous sauver la vie.
Eh bien, ça commence fort, non ?
Exactement, c'est ce que je... Peut-être que je pourrais parler...
T'es ému ? T'oublies le micro ?
Non, c'est pas ça, j'avais le micro à côté. Oui, ça commence très fort, mais en même temps, on peut se poser des questions quand même. Pourquoi cette mère prend-elle tant de risques pour son enfant ?
En fait, on découvre que... On découvre en lisant le roman que Samuel vit une adolescence très difficile. Ses parents ont divorcé, il a dû quitter sa région, ils se sont installés avec sa mère à Bordeaux. Et il est au bord, et quand je dis au bord, il est presque plus qu'au bord de la délinquance. Et en plus, il est habité par un désarroi intense. Alors, comment s'en sortir lorsque le dialogue avec son propre enfant s'est perdu, laissant place à une sorte d'incompréhension totale et que l'on assiste impuissant à sa dérive ? Alors, c'est pour ça que le seul mot qu'on retrouve dans le roman, c'est « il faut continuer ». Que ce soit continuer la vie, continuer le combat, continuer à marcher dans ce pays parfois hostile, c'est continuer. Alors, pourquoi le kirghize ? Déjà, elle a la langue russe, puisqu'elle parle russe, elle.
C'est vrai.
Donc, elle a déjà un moyen de communiquer. Tous les deux, ça on le voit dans le roman, ils aiment aller à cheval, même si le gamin il s'intéresse plus à rien, mais à une époque, donc le cheval, elle pense que par l'animal, elle peut aussi le raccrocher à quelque chose, et on découvre en lisant le roman jusqu'au bout à combien le cheval a de l'importance pour que l'enfant se réhabitue à la vie. Et puis que dire d'autre? Et puis aussi que si elle avait été se balader dans un quelconque pays d'Europe, elle sait que ce son gamin se serait enfui. Parce que si tu te retrouves en Écosse, en Italie ou je sais pas quoi, tu te débrouilles.
C'est pas trop compliqué.
Alors qu'en Kirghizistan, tu te débrouilles pas.
Je reconnais que tu réponds bien à ma question. Parce que tout à l'heure, pendant la musique, on discutait avec Dominique et on se disait quand même, Dominique lui-même disait, elle aurait pu aller à Saint-Dié, le long de la Loire. Il y a une magnifique piste cyclable qui dure longtemps. Et les Kazakhs sont moins dangereux. Mais effectivement...
J'ai vraiment dit ça, moi ?
Pas tout à fait, il ment.
Bon.
Alors, donc c'est... Sibylle, alors il faut savoir aussi qu'elle est infirmière, qu'elle travaille dans un hôpital, qu'elle élève seule son gamin. Ben voilà, elle a cette idée complètement folle de proposer ce périple à cheval à son fils. C'est une sorte de voyage de la dernière chance.
Complètement
quoi.
Folle.
Ouais. Et puis pour elle, c'est le seul moyen de sauver un fils mutique qui se la joue skinhead et s'enferme derrière son casque audio dans lequel il écoute, entre autres, le David Bowie qu'on vient d'entendre. Et de toute façon, c'est ça ou la pension prônée par son père. L'histoire avait commencé quelques mois plus tôt. Samuel décrochait à tous les niveaux, scolaire, mais pas seulement. Comme si même dans sa façon d'être, soudain, plus rien ne répondait. Comme s'il n'était plus capable de savoir s'il faisait chaud ou froid et de s'habiller en conséquence. Comme s'il n'était plus capable de savoir quel jour de la semaine on était. Comme s'il était incapable de savoir s'il était seul ou avec quelqu'un dans une pièce. Comme s'il confondait le jour et la nuit. Sibylle essayait de ne pas tout mettre sur le dos de Benoît, de leur séparation, du déménagement en catastrophe à Bordeaux. Elle essayait de récapituler l'enchaînement des faits. Elle reconstituait à rebours leur parcours pour comprendre ce qui séparait ce fils qui venait de se raser le crâne pour faire plaisir à ses copains, qui s'habillait tout en noir avec des Doc Martens, son look de skinhead un peu grotesque, parce qu'elle se demandait bien qui pourrait avoir peur de lui avec sa tête d'adolescent mal dégrossie. Mais en mars... Ce vendredi dont elle se souviendra longtemps parce qu'il aura été l'occasion de ce nouveau départ, Samuel n'était pas rentré de la nuit. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, donc, Sibylle traverse le couloir et le salon, sans plus rien voir. Elle laisse tomber son sac sur le parquet, retire son manteau et va dans la cuisine. Elle ouvre le robinet et boit directement au filet d'eau. Elle longe le couloir et s'arrête près de la chambre de Samuel. Elle hésite à frapper, puis, non, se reprend, glisse la main vers la poignée, ouvre lentement. La chambre est vide. Elle revient dans le salon, regarde l'heure, 00:42. Elle s'assied, se relève, prend son téléphone, rien. Elle le pose à côté d'elle, elle prend son paquet de cigarettes, fume. Elle finit par reprendre le téléphone. Elle appelle. Maintenant, l'horloge indique 3h20. Sibylle regarde une série américaine en fumant. Elle zappe, les images la laissent indifférente. Elle ne s'imprime pas sur sa rétine ni dans son cerveau. Elle va éteindre sa cigarette dans la cuisine, sous l'eau du robinet. Et merde, dit-elle en se jetant sur le téléphone. Elle fait le numéro en attendant une réponse. Elle attrape la télécommande pour éteindre la télé. Le noir sur l'écran et puis la sonnerie dans l'oreille. La voix de Samuel, sa messagerie, le bip. Et soudain sa voix à elle, qui tremble et résonne dans la pièce. Elle se dit qu'elle va appeler les hôpitaux ou les pompiers, pas encore la police. Elle reprend le téléphone, le regarde, regarde encore le cadran de la pendule. Non, la réponse n'est pas écrite sur les aiguilles de cette vieille horloge IKEA qu'elle se traîne depuis des années. Alors il faut attendre. Alors, quand le téléphone sonne, c'est comme si tout dans l'appartement, dans l'immeuble même, se mettait à craquer. Sibylle est recroquevillée dans le vieux fauteuil club près de la fenêtre. Elle se réveille en sursaut. Oui, elle a dormi. C'est comme ça qu'elle en prend conscience, dans la violence du sursaut. Elle se redresse et se jette sur son téléphone. Elle reste sidérée, les larmes aux yeux. Elle laisse retomber le téléphone sur la table. Elle ne sait pas au fond si elle est en colère ou rassurée de savoir Samuel vivant et en bonne santé. Maintenant, elle sait qu'il ne viendra pas tout de suite. Elle devra aller le chercher à la gendarmerie de Lacano dès le matin.
Sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Slip. Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say?
Samuel se sent de mauvaise humeur. Elle le voit tout de suite. Pourtant, il va beaucoup mieux, elle le sent. Mais il se réfugie encore beaucoup derrière ses écouteurs. Il partage assez peu de choses avec sa mère. Ils vivent sans vraiment se parler l'un à côté de l'autre, mais sans hostilité, sans l'animosité qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre à Bordeaux quelques semaines encore auparavant. Alors ça va ? Ouais, ça va. Alors ils partent et grimpent pendant une bonne heure, un versant assez abrupt. Autour, il n'y a bientôt plus que des glaciers. On doit être au moins à 4000 mètres. Il fait vraiment froid. Ils sont bien couverts, bonnets et cache-col, comme en hiver. Autour d'eux, des plaques de glace apparaissent, des fragments éparpillés qui projettent des morceaux d'un ciel bleu et dur comme le verre. Les glaciers qui les surplombent forment comme des murailles blanches aux reflets métalliques, bleu-gris. Et s'ils entendent des écoulements, des ruissellements, Sibylle et Samuel pensent seulement à la rivière qu'ils ont croisée et qu'ils ont réussi à traverser sans trop de difficulté à gué sur des cailloux. Une rivière dont le débit était pourtant rapide et tumultueux. Au départ, l'eau s'infiltre dans la terre trop sèche qui d'abord n'absorbe rien et forme un fond à l'accumulation de l'eau. Et puis lentement, doucement, l'eau s'infiltre, s'imbibe, le sol devient mou, herbe, cailloux, terre, un limon spongieux qui enfle et se transforme lentement, se nourrissant, se gonflant, se colorant, jusqu'à ce qu'un marécage s'étende, tentaculaire et profond, engloutissant dans son fond de vase tout ce qui veut l'emprunter. Ça se fait lentement, en quelques jours, peut-être en quelques semaines. Mais pour eux maintenant, il est déjà trop tard. Ils ont trop avancé lorsqu'ils comprennent que cette esplanade qu'ils croyaient froide mais paisible s'ouvre sur un sol imbibé d'eau. Et c'est au moment où l'eau arrive aux genoux des chevaux que Sibylle s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. Est-ce qu'on peut envisager un repli, repartir, rebrousser chemin ? Elle essaie de faire demi-tour à son cheval, mais l'effort de ce demi-tour lui arrache un hennissement si puissant et douloureux qu'il se braque et revient dans sa première position. Non, il ne peut pas se retourner, soulever un sabot, une jambe, l'autre, tout son corps, son poids et celui de Sibylle et les sacoches pleines, le sac roulé derrière. C'est impossible. En levant les yeux, elle voit d'abord le visage blême de Samuel, qui s'est arrêté à son tour et l'interroge d'un mouvement de tête, comme s'il disait « Qu'est-ce qui se passe ? On est où ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver ?» Sibylle comprend que faire du surplace, c'est s'embourber. La boue est le danger. Il faut continuer. Il faut aller plus vite, le plus vite possible. Samuel qui réagit « Maman, maman, mais putain, on s'enfonce ! On s'enfonce !» Et tous les deux se mettent à crier, à claquer leurs talons dans les flancs des chevaux. Ils éperonnent de toute leur force, ils crient, s'agitent. Les chevaux alors se lancent pour s'arracher à cette mélasse qui les avale. Pour se hisser, ils bondissent et déploient tous leurs muscles, leur énergie. Ils se lancent et gagnent, grignotent 20, 30, 50 centimètres. Et puis dans un effort immense retombent dans l'immobilité qui voudrait les reprendre. Les flaques de boue noirâtre sous la verdure. Plus d'herbe du tout, plus de pierre du tout. Seulement autour d'eux qui semblent déregarder les condamnés prêts à se replier sur ce dôme qui devait les aider à aller plus vite vers Hoche. Des falaises et des crêtes, comme une gouttière en zinc qui les condamne à continuer pour sortir de ce tunnel. Les chevaux hennissent et s'enfoncent jusqu'au bas de l'encolure. Les chaussures et les bas de pantalon saisis par cette matière visqueuse et froide. Et la peur qui monte avec ce bruit horrible, ce glougloutement qui avale tout et régurgite comme un organisme au travail. On crie, les bêtes avancent, on va tenir, il faut tenir. Une heure passe, et puis une deuxième, on avance trop lentement. Est-ce que les chevaux auront la force ? L'effort, l'effort encore, l'effort jusqu'au bout. 4 heures à alterner les moments de combat et les relâchements. On reprend souffle et on repart, les jambes tremblantes, les chevaux qui s'enfoncent ou glissent. Et enfin, plus loin, là-bas, à une dizaine de mètres, oui, un talus nous attend qui avance vers nous, vers le marais. Si on y arrive, et il faut qu'on y arrive, il le faut, on se le dit pour soi-même parce qu'on n'a plus la force du moindre mot. Juste des sons pour cracher aux chevaux l'ordre de continuer. Mais pour le reste, les sons ne sont que des cris qu'on expulse. On va y arriver, oui. Un talus assez vaste pour nous accueillir, et déjà on regarde avec envie les pierres pointues et osseuses, trop saillantes, on rêve de s'esquinter les pieds sur la terre ferme. Mais l'espoir que le talus a créé suscite d'autres obstacles, d'autres paris. Il faut l'atteindre pour contourner la cuvette si l'on veut pouvoir rejoindre l'autre versant de la montagne. Ils sont en train de s'en sortir. Et la peur et la joie se libèrent dans une émotion qu'ils ne reconnaissent pas. L'envie de courir, de galoper, ils voudraient aller plus vite et décident de descendre pour retrouver un endroit plus chaud. Il doit être autour de 15 heures, alors oui. Sur ce versant, il doit y avoir des plateaux où le soleil frappe à traits redoublés. Il s'imagine déjà en train de se réchauffer à ses rayons, pourvu qu'un tel endroit existe, où l'on pourra se reposer, se réconforter, pourvu qu'il existe.
Oye, oye, perro guarro, los cojones, me oyes? Oye, tú, ven a mí. Tres horas sin parar. Vamos, vamos, perro, güero, güerito. Trae tu cuero. Que quiero verte y olerte. La miraba, pero no la veía. Había estado bailando dos o tres horas.
Le lendemain. Depuis le sommet d'où l'on aperçoit, le lac est une fève géante d'un bleu profond, tirant sur le noir. Le plan d'eau s'ouvre en plein milieu d'un vaste terrain herbeux qui l'encercle entièrement. Sibylle et Samuel décident de s'y arrêter, de prendre le temps. Ils y laveront leurs affaires, et se laveront d'abord eux-mêmes, feront prendre un bain aux chevaux, même s'ils se demandent quelle sera leur réaction en entrant dans l'eau. Sibylle ne se contente pas de descendre de Sidious. Elle retire ses sacoches, la selle, tout, et puis elle s'élance et remonte sur le cheval. Tous les deux entrent sans aucune peur. Lorsque l'eau lui arrive aux chevilles, Sibylle pousse un cri et dans un éclat de rire, elle jure. Oh bon Dieu, ce que c'est froid! Mais elle rit, elle avance et bientôt le cheval n'a plus pied. Ça dure quelques minutes. Il nage tranquillement comme s'il le faisait très souvent sans inquiétude. Et Sibylle s'allonge sur le dos de son cheval. Elle est habillée et se met à rire d'un rire profond, sans retenue. Une libération qui se propage sur le rivage, dans le regard de Samuel. Cette fois, il reste sidéré et commence à rire lui aussi. Un moment, tout est oublié de la veille. Et il est prêt à penser que sa mère est imprévisible et drôle. Folle peut-être, mais qu'au fond c'est ce qui fait d'elle quelqu'un d'unique, d'inimitable. Il se demande combien de ses copains pourraient se retrouver dans sa situation, partir si loin avec leur mère et la voir nager tout habillée, crado comme une punk à chien, morte de rire sur le dos d'un cheval en train de nager. Oui. À ce moment-là, Samuel serait prêt à reconnaître qu'il est parfois impressionné par sa mère, que d'une certaine manière, il a de l'admiration pour elle. Là, maintenant, pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait, il serait prêt aussi à croire qu'elle l'aime assez pour avoir sacrifié une maison à laquelle elle tenait en Bourgogne. Et cette idée lui traverse l'esprit que tout ce qu'elle fait pour l'aider, lui, c'est par amour pour lui. Et cet amour soudain, il sent que c'est toute sa motivation, toute sa raison à elle d'être ici. Alors, à ce moment-là, il est au bord de reconnaître qu'il en est bouleversé. Il pourrait, oui, s'il n'avait pas si peur d'avouer qu'il aime sa mère, s'il n'était pas effrayé à l'idée de l'aimer, lui qui sait si bien qu'aimer et accepter est plus difficile que haïr et rejeter.
I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody, with all the people in the street walking fast as the feet can take them, I just roll through town. And though my window's got a view, well, the frame I look through seems to have no concern for now. So for now, this engine screams out loud, centipede gonna crawl westbound. So I don't even make a sound, 'cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that'll never get to meet, these tracks don't bend somehow. And I got no time that I got to get to where I don't need to be. Down low, and
stop now.
Voilà, alors petit à petit, le pari de l'ouverture à l'autre qu'a fait Sybille porte ses fruits et notre jeune héros, Samuel, finit par accepter de voir en l'étranger autre chose qu'une menace. Même si dans certains des extraits, on a l'impression que la menace est là, il y a plein d'autres rencontres dans ce livre extraordinaire et des rencontres de l'humanité.
Est-ce lui le jeune, ce héros, ou plutôt n'est-ce pas sa mère ? Parce que Samuel se rend compte que sa mère, elle est absolument extraordinaire.
Et pourtant, dans le livre, il faut que vous le lisiez, hein, tous ceux qui ne l'ont pas lu.
Non, je ne l'ai pas lu, moi.
Dans le livre, on voit à quel point parfois le fils, mais en regardant sa mère, dit qu'il déteste cette femme, qu'il ne supporte rien de cette femme. C'est terrible.
Et pourtant ouais. dans la scène que tu viens de dire, c'est le contraire.
Oui. Parce que j'ai fait exprès de montrer les deux, où quand elle se plante et ils ont failli mourir en s'enfonçant dans la vase. Et le lendemain, tout d'un coup, il se dit qu'il a oublié toutes ces horreurs que sa mère lui a fait subir. Parce qu'il la découvre tellement humaine, tellement extraordinaire en fait. Peut-être
faut toujours...
un peu inconsciente quand même.
Ah oui, il y a beaucoup d'inconscience quand même. Et tu lui expliques bien le titre, il faut donc toujours...
Continuer. Voilà.
Continuer.
Alors. Eh bien, continuons. C'était facile.
Dans la voiture qui les mène à Auch, Benoît conduit et regarde fixement la route. Il aimerait comprendre ce qu'il fait là. Il n'est plus très sûr de le savoir. Il essaie de poser des tas de questions à Samuel, mais plutôt que de demander comment les choses se sont passées, il voudrait savoir comment elles ne se sont pas passées. C'est-à-dire comment tout ce qui a pu arriver entre sa mère et lui les a conduits là où ils en sont. Quand ils arrivent à l'hôpital, Benoît reste les lèvres clouées. Il essaie de trouver dans le regard de son fils des réponses. Il voudrait savoir si des idées qui le bousculent, des idées, des reproches qu'elle lui avait fait. Samuel marche devant son père. Ils entrent dans l'hôpital et c'est Samuel qui demande à l'accueil s'il peut aller voir Sybille dans sa chambre. Quelqu'un les accompagne et Benoît, en retrait, regarde son fils qui marche bien droit dans ses fringues impossibles, un pantalon de survêtement bleu dégueulasse et un t-shirt qui ne vaut pas mieux. Son père voudrait lui jeter la main sur l'épaule, l'obliger à se retourner. Il voudrait que Samuel le regarde dans les yeux et lui dise tout ce qu'il sait, ce qui s'est passé avec sa mère et ce que pendant ces trois mois, sa mère lui aurait dit... Mais il n'ose rien. Soudain, c'est comme si son fils l'impressionnait. Alors il garde ses questions pour lui, les marmonne, mais Samuel ne les entend pas. Et parfois, Benoît les dit un peu plus fort, son fils ne répond pas. Est-ce qu'il les entend ? Est-ce qu'il écoute ? Son père qui continue, « Mais Samuel, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Qu'est-ce qu'elle écrit dans son putain de carnet ? J'ai été son mari pendant 17 ans, tu crois que tu en sais plus que moi ? Que tu la connais mieux que moi ? Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ce carnet ? Avec moi, elle a jamais écrit une ligne, tu entends ? Elle en était bien incapable, toujours mal au dos, aux bras, aux jambes, toujours fatiguée, toujours. Samuel, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ressembles... T'es quand même pas devenu kirghize, non ? Non. C'est juste que j'ai compris un truc. Un truc ? Si on a peur des autres, on est foutu. Aller vers les autres, si on ne le fait pas un peu, même un peu de temps en temps, tu comprends ? Je crois qu'on peut en crever. Les gens, mais les pays aussi en crèvent. Tu comprends tous, si on croit qu'on n'a pas besoin des autres ou que les autres sont seulement des dangers, alors on est foutu. Aller vers les autres, c'est pas renoncer à soi.
to London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told me. Time we were given will be left for the world. The flesh that lived and loved will be eaten by plague. So let the memories be good for those who stay. The same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring swaps snow.
Bon, faut être honnête, j'ai juste effleuré l'histoire. Ils vont traverser de terribles épreuves, faire des rencontres importantes qui vont bouleverser leur vie et leurs relations. Donc il faut lire cette incroyable aventure humaine entre une mère et son fils, au bout du monde et au bout d'eux-mêmes. Et alors, je vais vous rappeler les références du roman. C'est Continué de Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit en 2016. Et je vais rajouter un petit détail, que vous savez peut-être tous d'ailleurs, que le roman a été porté à l'écran en 2019 par Joachim Lafosse.
Ah non, j'ignorais.
Donc, et c'était avec... comment elle s'appelle ? Celle qui tourne partout maintenant.
Ah ben, il y en a quelques-unes.
Non, mais la blonde, partout. Là, on voit partout. Ça y est, j'ai un trou de mémoire.
Virginie Efira.
Voilà ! Virginie Efira qui fait le rôle de la mère.
D'accord. Bah, écoute, je ne connaissais pas Laurent Mauvignier. J'ai découvert ce livre et les quelques extraits que tu as lus me donnent une furieuse envie de le découvrir.
Et ça se lit très
découvrir.
Vite. Ça se lit tout seul.
Très voilà. Bien. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une... prochaine lecture. Alors, qui lira la prochaine fois ? On sera au mois de mars.
Ouais.
Eh bien, alors, comme cette émission est préparée, j'ai un petit papier sous les yeux où il y a écrit Hervé, puis il n'y a rien derrière. Alors,
parce que je ne savais pas ce que tu allais dire.
Eh bien, en fait, je suis capable de dire que le mois prochain, le mois de mars donc, nous participerons à l'opération blésoise sur le féminisme et que nous lirons ensemble.
Le 8 mars, c'est la journée de la femme.
Exactement, et que Catherine et moi, nous lirons ensemble le roman « Rien n'est noir » de Claire Berest à propos de l'excellente artiste mexicaine Frida Kahlo.
Ouais. Et on va faire encore plus fort que d'habitude parce que même je peux dire que j'ai déjà une idée pour le prochain mois.
Celui d'après.
Ouais, voyez.
On n'a jamais vu ça.
Bah, oui, c'est de la folie. En fait, c'est à cause de Laurent Mauvignier, c'est un de ses copains qui s'appelle Tanguy Viel et qui vient juste de sortir, enfin à l'automne là, La fille qu'on appelle. Voilà. Mais évidemment, j'ai le temps de changer d'avis. Hein.
Très bien.
D'autant que normalement, tu devrais nous lire des nouvelles.
Mais je fais que ça. Je fais que ça. Mais j'en lis plein, mais il faut que j'ai le coup de cœur et oui, c'est compliqué oui, avec moi. Oui,
oui. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs. Et au mois prochain.